au chapitre 8 et à partir du verset 51. Voilà, dans le cadre de l'Assemblée d'Annecy, nous méditons actuellement sur l'Évangile de Jean et plus précisément sur la révélation que le Seigneur nous y fait de lui-même lorsqu'il nous révèle ce qu'il est à travers plusieurs paroles où le Seigneur déclare « Je suis » et il nous révèle ce qu'il a été fait pour nous. Pourrions donc lire dans l'Évangile de Jean, chapitre 8, à partir du verset 51. Voilà, nous lisons ceci. « En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Maintenant, lui dirent les Juifs, nous savons que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi, et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. » Es-tu plus grand que notre père Abraham, qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Puis nous reprenons verset 56. Verset 56, Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Voilà, dans ce texte singulier de l'Écriture, nous entendons le Seigneur affirmer sa divinité de manière très claire lorsque, dans le cadre de cet échange avec les Juifs, le Seigneur déclare « Avant qu'Abraham fût, je suis ». Même dans la grammaire de cette déclaration, nous voyons qu'il y a quelque chose de singulier. Le Seigneur ne déclare pas simplement « Avant qu'Abraham fût, j'étais », mais « Avant qu'Abraham fût, je suis ». Il affirme ici son existence, sa préexistence, indépendamment de toute la création. Puis aussi, bien sûr, les Juifs qui l'écoutaient ont immédiatement compris cette parole du Seigneur, il y a là un écho de la révélation que Dieu fera de lui-même à Moïse, au buisson ardent, lorsque Dieu confie cette mission à Moïse de délivrer Israël, son peuple. Moïse demande, mais si ton peuple demande le nom de celui qui m'a envoyé, Moïse dit, fait connaître cette interrogation à Dieu qui va se révéler, je suis celui qui suis, tu diras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle « Je suis ». M'a envoyé vers toi. Et les Juifs ne s'y sont pas trompés, puisque nous avons vu qu'ils ramassent des pierres pour lapider le maître. Nous trouvons de telles déclarations, nous trouvons cette déclaration en particulier dans l'évangile de Jean, et les dialogues, les échanges entre le Seigneur Jésus-Christ et les Juifs, et c'est une particularité de l'évangile de Jean. Nous ne trouvons pas, en effet, de tels échanges dans les autres livres qu'on appelle les évangiles de Matthieu, de Marc, de Luc. C'est parce que Jean se poursuit un but bien spécifique, et nous allons en parler ce matin. Ailleurs dans l'évangile de Jean, nous trouvons non seulement l'affirmation de la divinité du Seigneur, mais nous l'avons dit, une révélation à plusieurs reprises de ce qu'il est pour nous, de ce qu'il a été fait pour nous. Le Seigneur déclare non seulement « je suis », mais encore « je suis », par exemple, « je suis le pain de vie », « je suis la lumière du monde », « je suis la porte », etc. Et pour comprendre cet enseignement de l'évangile de Jean, pourquoi Jean nous a rapporté, guidé qu'il était par le Saint-Esprit, ces paroles, eh bien, il est bon de comprendre ce qui fait que l'évangile de Jean est à part des autres. Alors, certainement, une bonne manière d'approcher ce livre, ces paroles inspirées par l'Esprit, et de nous interroger en premier lieu sur ce que l'Écriture nous révèle de l'apôtre Jean, que le Saint-Esprit a guidé pour écrire ce livre qui porte son nom. Voilà, l'apôtre Jean, qui était-il? C'est le fils, il était pêcheur de poissons près du lac de Génézareth, de la mer de Galilée. Son père était lui-même pêcheur de poissons, il s'appelait Zébédée. Et quant à la mère de Jean, il semble qu'il faille l'identifier, cette femme nommée Salomé, quoi qu'il en soit. Sa mère faisait partie de ces femmes qui ont suivi Jésus depuis la Galilée. On la retrouve au pied de la croix. C'est une femme pieuse, elle a assisté le Seigneur de ses biens. Où habitait cette famille? Près de la mer de Galilée. Hein. Il s'agissait d'une famille de pêcheurs. Certains ont voulu voir plus précisément et disent qu'ils habitaient Bethsaïda parce que c'était la ville d'où était originaire l'apôtre Pierre. Alors c'est possible, l'Écriture ne le révèle pas. Zébédée, le père de Jean, avait des ouvriers. Hein, il avait des ouvriers, on l'apprend par l'évangile de Marc. C'était donc une famille aisée. L'industrie de la pêche était alors particulièrement lucrative. Donc Jean a évolué dans une famille qui ne manquait pas de moyens. Quant à sa maman, elle était probablement très pieuse. En tout cas, quand le Seigneur paraît sur la scène d'Israël, très, très vite, nous la voyons suivre le maître. Il y a dans le cœur de cette femme le désir de suivre et de servir le maître. On peut donc supposer qu'elle a instruit son fils Jean dans la connaissance des Écritures, qu'elle lui a inculqué une piété. Et c'est, quelle grâce, hein, si nous grandissons dans un foyer chrétien, si le Seigneur nous fait à nous aussi cette grâce d'évoluer dans une famille où les Écritures sont ouvertes chaque jour, nous sommes instruits dans la connaissance des saintes lettres. Paul écrira, elles peuvent nous rendre sages à salut par la foi en Jésus-Christ. Jean avait au moins un frère, hein, au moins un frère Jacques, probablement l'aîné, puisque très souvent il est nommé le premier dans l'Écriture, quand tous les deux apparaissent dans le texte des saintes lettres. Le frère de Jean, Jacques, est le premier des apôtres qui sera mis à mort pour sa foi. Hein, nous l'apprenons dans le livre des Actes, au chapitre 12. Il a été mis à mort sur ordre d'Hérode. Lorsque Jean-Baptiste paraît sur la scène d'Israël, Jean fait partie de ceux qui se sont rendus à lui pour être baptisés. C'est soumis au baptême de Jean. Et Jean s'est soumis au baptême de Jean-Baptiste parce que dans son cœur, bien, il y avait une œuvre profonde de Dieu. Il a expérimenté une profonde et authentique repentance. Jean-Baptiste lui a donc administré ce baptême de repentance que Dieu l'avait envoyé administrer. Et c'est alors qu'il se trouve avec Jean-Baptiste que le maître, alors les évangiles nous permettent de nous rendre compte que c'est après que le Seigneur est revenu de la tentation au désert, et alors que le maître paraît, Jean-Baptiste rend de lui ce témoignage, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Jean se trouve là avec un autre disciple, André, frère de Simon-Pierre, et voilà, un contact va se créer entre eux et le Seigneur. Que cherchez-vous ? Leur demande le maître. Et Jean et André lui répondent « Où demeures-tu ? » Et le maître va les prendre avec eux ce jour-là. Hein, l'Écriture ne nous rapporte pas les échanges qui se sont déroulés entre le Seigneur et Jean. Voilà, le Seigneur les a instruits, il leur a parlé. Alors, lorsque vous lisez le récit de ces événements, hein, premier chapitre de l'Évangile de Jean, on ne voit pas le nom de Jean apparaître. C'est tout simplement parce que par humilité, Jean qui rapporte les événements ne se mentionne pas. Mais ce qui est frappant, c'est de découvrir que lorsque Jean va écrire cet évangile, hein, des dizaines d'années plus tard, il n'a jamais oublié ce moment. Il se rappelle même l'heure précise. Hein, c'était la 10e heure, est-il écrit. Et il y a des moments dans notre vie spirituelle que nous n'oublions jamais, où le Seigneur se manifeste à nous, peut-être lors de notre conversion, peut-être après notre conversion, dans des moments particuliers. Le Seigneur se révèle à nous, nous parle, nous aussi, et nous n'oublions jamais ces moments, toute notre vie, nous conservons ces moments avec nous, et c'est là une grâce du Seigneur. Alors, voilà, la relation entre Jean et le Seigneur Jésus-Christ. Bien que, ayant vécu ces moments, ayant entendu l'enseignement du Maître, Jean n'a pas abandonné immédiatement son occupation, son métier de pêcheur de poissons hein, dans la mer de Galilée. Et c'est plus tard que le Seigneur va l'appeler à le suivre, alors qu'il se trouve dans sa barque avec son père Zébédée. Ça nous est rapporté par l'évangile de Matthieu, par l'évangile de Marc. C'est probablement l'occasion qui nous est rapportée également par Luc, l'occasion de la pêche miraculeuse, et de l'appel de Pierre et de son frère. Quoi qu'il en soit, ce jour-là, le maître appelle Jean à le suivre et il nous est dit que Jean va laisser sa barque et son père. Voilà, le père n'a rien fait pour s'y opposer. Sans doute lui aussi était-il un homme pieux. Quoi qu'il en soit, Jean, à partir de ce moment-là, va se consacrer entièrement au service du maître. Il y a des temps où Dieu peut nous parler alors que nous le connaissons, que nous lui appartenons. Il y a des moments à part où Dieu peut nous indiquer une direction précise. Béni soit son nom, il le fait dans sa providence, il le fait par sa parole, il le fait par l'action du Saint-Esprit qui aujourd'hui agit dans le monde, particulièrement dans son Église. Et il est capable, nous aussi, même s'il ne nous appelle pas à annoncer la parole, à être prédicateur de l'Évangile, bien, il est tout à fait possible que le Seigneur nous conduise dans sa volonté particulière. Après que Jean a été appelé et a commencé à suivre le maître, bien nous savons que le Seigneur a choisi parmi ses disciples 12 apôtres, c'est-à-dire les 12 envoyés. Et parmi ces 12 envoyés se trouve l'apôtre Jean et son frère Jacques. Et ce qui est frappant, c'est de voir que lorsque les noms des 12 apôtres nous sont livrés dans l'Écriture, Jean et son frère Jacques figurent toujours parmi les premiers. On trouve d'ailleurs Jean et son frère à des moments particuliers du ministère de Jésus-Christ. Alors, par exemple, on trouvera Jean et Jacques avec Simon-Pierre et son frère André lors de la guérison de la belle-mère de Pierre. On les trouve encore tous les quatre ensemble lorsque, vers la fin de son ministère, le Seigneur va discourir sur les pierres du temple. Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne sera renversé, que le Seigneur s'apprête à partager ses paroles concernant les temps de la fin. Et puis, à trois reprises, on trouve Pierre, Jacques et Jean, à des moments particuliers, lors de la résurrection de la fille de Jaïrus, hein, ce sont les trois disciples que le Seigneur a pris avec lui. On trouvera Pierre, Jacques et Jean lors de la transfiguration sur cette montagne où la gloire du Seigneur se révèle à eux. C'est un moment qui les marquera toujours. Hein. Pierre, dans sa seconde épître, en parle encore. Cette gloire qu'il a vue, cette gloire du Seigneur qui transparaît, son visage devient d'une éclatante, devient brillant comme le soleil, ses vêtements blancs, plus blancs qu'aucun blanchisseur, aucun fouleau peut blanchir ainsi, ça l'a marqué profondément, et on sent que cette révélation de la gloire de Dieu va le soutenir dans sa vie de chrétien et son apostolat jusqu'à la fin. Et Jean se trouvait là, à ce moment-là. Puis on trouve aussi ses trois disciples, Pierre, Jacques et Jean, à Gethsémané. Gethsémané, même si, alors que le Seigneur prie, eux ne sont pas capables, dans leur faiblesse et dans leur tristesse, de veiller et de l'assister dans cette heure. Jean et Pierre étaient amis. Ils étaient amis. Alors, est-ce qu'ils étaient amis est-ce que cette amitié est datée d'avant l'appel du Seigneur? Est-ce que dans la ville de Bethsaïda ou ailleurs, le fait qu'ils étaient tous deux pêcheurs les a rapprochés? Est-ce qu'il y avait cette amitié dès ce moment? Est-ce que l'amitié s'est créée ou est-ce qu'elle s'est renforcée alors qu'ils suivaient le maître? On ne sait pas. En tout cas, le Seigneur connaissait cette amitié. On le voit notamment alors que le Seigneur s'apprête à manger la dernière Pâque, elle est lourde de signification, cette Pâque pour lui. Il sait que cette Pâque préfigure, elle représente sa mort, s'apprête à marcher vers la croix. Il est venu pour cela. Alors que cette heure approche, c'est la seule fois où, dans l'évangile de Jean précisément, on entend le Seigneur hésiter dans sa prière. Bon, mon âme est troublée. Maintenant, Seigneur, que dirais-je? Vous voyez, donc, dans cette heure particulière, il envoie Pierre et Jean préparer cette Pâque. Il sait, comme si le Seigneur lui-même trouvait une consolation dans cette amitié profonde, spirituelle, qui unit ces deux hommes. On y reviendra. On parle souvent dans l'Écriture de l'amitié de David et de Jonathan. Il y a aussi l'amitié de Jean et de Pierre. Après que Pierre aura renié le Seigneur, c'est une page sombre de l'Écriture, il est frappant de voir que Jean va rester avec lui. Et sans doute, l'amitié de Jean est un élément extrêmement important pour Pierre, jusqu'à ce que, sur les bords du lac de Tibériade, à nouveau, le Seigneur apparaisse à Pierre, « M'aimes-tu ?» trois fois, « Paie mes agneaux, paie mes brebis ». Mais avant cela, on se souvient par exemple que quand le Seigneur est ressuscité, lorsque Marie de Magdala viennent rapporter aux apôtres que le tombeau est vide, Pierre et Jean courent jusqu'au sépulcre. Alors Jean court le plus vite, il arrive le premier, Pierre arrive en second, mais dans son impétuosité, c'est lui qui entre. Et alors il nous est dit que Jean a cru à ce moment-là. L'amitié de Jean. Il y a un certain nombre de faits qui sont rapportés par Matthieu, par Marc, par Luc, mais même concernant les relations entre Jésus-Christ et ses disciples, notamment avec l'apôtre Jean, il y a dans l'évangile de Jean des faits tout à fait uniques. C'est un mystère, car le Seigneur ne fait pas de favoritisme. Mais, particulièrement dans l'évangile de Jean, on voit que le Seigneur, dans les jours de sa chair, avait une affection particulière pour certains disciples. Il nous a dit, entre autres, que le Seigneur aimait, il faut comprendre ici, aimait d'une affection particulière Marthe et sa sœur, Marie et Lazare. Or, dans l'évangile de Jean, à quatre reprises, l'apôtre Jean est appelé le disciple que Jésus aimait. Il y avait une affection particulière qui était portée par le Seigneur à Jean. Quand, dans la chambre haute, les disciples prennent le repas avec le maître, Jean était allongé sur le sein du Seigneur. C'est ainsi qu'on prenait les repas. Alors, Pierre d'ailleurs fera signe à Jean de demander qui est celui qui allait le livrer. Le Seigneur avait révélé que l'un des 12, Judas devenu traître, allait le livrer. Puis à la croix, seul Jean, parmi les 12, il y avait plusieurs femmes. Alors, les récits des évangiles nous parlent de ces femmes qui se tiennent à une certaine distance. Et l'évangéliste Jean nous parle de Jean et de la mère de Jésus qui se tiennent au pied de la croix. Certains veulent voir là une contradiction. Il n'y a bien sûr aucune contradiction dans l'Écriture. On peut supposer peut-être que ces femmes se sont approchées au bout d'un moment, voyant qu'il n'y avait rien à craindre de la part des soldats. Quoi qu'il en soit, au pied de la croix, il y aura la mère de Jésus et Jean. Et Jean. Et le Seigneur, s'adressant à sa mère, dira « Femme, voilà ton fils. » S'adressant à Jean, « Voilà ta mère. » Et à partir de ce moment, dit l'évangéliste, Jean l'a pris chez elle. Voilà, on pourrait parler brièvement aussi de ce que les évangiles nous rapportent sur les défauts de l'apôtre Jean. L'apôtre Jean avait, comme nous, ses défauts et ses imperfections. On le voit prêt à demander à ce que le feu du ciel descende sur les Samaritains qui n'ont pas voulu recevoir le maître. On le voit s'opposer à cet homme qui chassait les démons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Puis à chaque fois, avec douceur, avec patience, le maître le reprend. Comme envers nous, le maître use de douceur et de patience pour nous façonner, pour nous transformer. Le maître a transformé et a œuvré dans le cœur de ce disciple qu'il aimait. Le maître nous aime, le Seigneur nous aime, et il œuvre dans notre cœur pour nous rendre propres à son service et nous aider à lui être utile. Quelques pensées par rapport à l'apostolat de Jean. après la résurrection du Seigneur Jésus-Christ et son ascension. Dans un premier temps, l'apôtre Jean va rester à Jérusalem, il va être baptisé du Saint-Esprit, il a part dans la chambre haute avec les 120 à cette visitation, le Saint-Esprit, semblable à des langues de feu, descend sur chacun d'eux. Et puis on le retrouve ensuite, pendant un temps, à Jérusalem, où il va œuvrer, il va exercer son apostolat. Et ce qui est frappant, c'est qu'on le retrouve encore aux côtés de l'apôtre Pierre. Ils sont amis. On le retrouve notamment à la belle porte du temple. À l'heure de la prière, tous les deux montent au temple. C'est ce Pierre qui souvent prend la parole. C'est lui qui va avoir cette parole qui s'accomplit dans la guérison du boiteux. On les retrouve face au Sanhédrin, tous les deux. Ils sont emprisonnés, tous les deux. Voilà, béni soit Dieu qui connaît cette amitié et qui a permis cette œuvre de ces deux disciples ensemble. Ces épreuves les rapprochent, ils s'encouragent mutuellement. C'est voulu de Dieu. Dieu n'a rien contre une saine amitié fraternelle en lui. Puis on les retrouve un peu plus tard encore en Samarie, alors que Philippe vient d'évangéliser cette ville. Les plusieurs disciples ont cru, mais ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Pierre et Jean leur imposent les mains et le Saint-Esprit descend sur eux. Béni soit Dieu. Et puis, à peu près 20 ans plus tard, on les retrouve encore tous les deux à Jérusalem. Quand Paul va y monter, on le voit dans le livre des Actes, dans l'Épître aux Galates, Jean se trouve là et Pierre s'y trouve aussi. Et ensuite, alors, voilà, on le sait par l'Écriture, et puis il y a aussi des sources extérieures à l'Écriture qui le confirment. Si vous vous intéressez un peu à l'histoire de l'Église, il y a cet homme, Irénée, qui est disciple de Polycarpe, qui lui-même avait été disciple de Jean, qui rapporte que Jean, pendant plusieurs années, a travaillé en Asie, une province de l'Asie mineure. C'est tout à fait corroboré par l'Écriture, parce que lorsque Jean est sur l'île de Patmos, que le Seigneur lui révèle ses grandes visions, ses paroles destinées à encourager, à maintenir la foi de l'Église dans la persécution, dans la difficulté, le Seigneur lui inspire cette lettre, cette épître, cette Église d'Asie, au nombre desquelles Éphèse. Des sources tendent à nous faire penser que Jean a passé beaucoup de temps à Éphèse, et c'est là que Jean a, pendant des années, exercé son ministère. Et on a bien l'impression que c'est encore avec l'apôtre Pierre. Voilà, cette amitié, elle a tenu bon jusqu'au bout. Et le Seigneur l'a favorisé, l'a encouragé. Alors, vous allez dire, comment comment on sait ça? Mais quand on lit, par exemple, la première épître de Pierre, on s'aperçoit qu'elle est adressée à tous ceux qui sont dispersés en Asie mineure, notamment en Asie. Voilà, alors, la Bible ne nous révèle pas plus, l'Écriture ne nous dit rien de plus précis quant à la relation entre ces deux disciples pendant l'apostolat de Jean en Asie mineure, mais c'est bon de penser que cette collaboration, cette amitié s'est poursuivie. Puis Jean a été dans l'île de Patmos, nous le savons par le premier chapitre du livre de l'Apocalypse, à cause du témoignage de Jésus. Probablement donc parce qu'il y a été exilé, banni à cause de sa foi. Beaucoup pensent que c'est sous le règne de l'empereur Domitien, c'est possible, l'Écriture ne le confirme pas. Et sur l'île de Patmos, voilà, l'apôtre va être ravi en esprit. Le Seigneur lui révèle toutes ces grandes visions, ces paroles extraordinaires, remarquables, qui sont consignées dans le livre de l'Apocalypse. C'est ces visions qui concernent l'Église, ces visions qui concernent le dessein de Dieu, son soutien. En ceci, Jean nous fait un peu penser à Daniel, ne pensez pas. Daniel, cet homme remarquable de l'Ancien Testament, à qui Dieu aussi a révélé dans de grandes visions ce qui concernait la destinée du peuple de Dieu. Et Daniel, dont il nous a dit à trois reprises qu'il était un bien-aimé. Alors, voilà l'application pour nous. Nous ne devons pas, bien sûr, rechercher des visions et des songes extraordinaires, mais l'Apocalypse est avant tout une révélation de Jésus-Christ. Et En nous appelant à la communion de son Fils, Jésus nous révèle Jésus-Christ. Il nous révèle Jésus-Christ. Et quant à cet amour dont Dieu a aimé Jean, comme il l'avait aimé Daniel, bien nous aussi en Jésus-Christ, nous en connaissons quelque chose. Nous avons connu l'amour de Dieu. Nous sommes agréables dans le bien-aimé. Et comme le Maître nous a aimés, il nous appelle à nous aimer les uns les autres. À ceci, voilà, tous connaîtront que nous lui appartenons, que nous sommes ses disciples, si nous avons de l'amour les uns pour les autres, de la même manière qu'il nous a aimés. Une dernière pensée à ce point. Alors, dans quel ordre Jean a-t-il écrit les livres qui lui ont été inspirés par l'Esprit dans l'Écriture? Voilà, il a écrit l'Apocalypse, il a écrit l'Évangile de Jean, il a écrit aussi ses trois épîtres, la première épître de Jean, deuxième épître de Jean, troisième épître de Jean. Alors, on aimerait bien croire que c'est l'Apocalypse qui a été rédigé en dernier, parce que c'est le dernier livre de la Bible, c'est la consommation de tout, c'est sous ces aspects remarquables. Finalement, Dieu explique beaucoup l'Ancien Testament dans le livre de l'Apocalypse. Nous en comprenons le sens bien plus que nous pourrions le penser à premier égard. Et on aimerait bien croire que c'est le dernier livre qui a été écrit. Ben, on ne sait pas. C'est très difficile d'établir la chronologie de l'écriture des livres de Jean. Mais qu'importe. Qu'importe. Ce n'est pas ça le plus important. Voilà donc ce qui concerne l'apôtre. Alors, parlons maintenant des particularités de l'évangile de Jean. Voilà. On ne connaît pas la date exacte à laquelle il l'a écrit, ce livre, mais c'est ce qui est évident, c'est qu'il est différent des trois autres évangiles. Alors, quel est le but? Pourquoi est-ce qu'il l'a écrit? En plus, il est manifeste que Jean, quand il écrit son évangile, bien, il considère pour acquis que les faits qui ont été rapportés par les autres évangélistes sont connus et qu'ils ont circulé, que l'Église connaît ces faits. Alors certains même disent que Jean écrit pour compléter ce qui manque. Non, non, il ne manque rien dans les autres évangiles. Le Saint-Esprit a conduit leurs auteurs dans un but particulier. Alors, concernant l'évangile de Jean, prenons le temps de lire un verset. Dans le chapitre 20, lisons le verset 30. Donc, évangile de Jean, chapitre 20. Et à partir du verset 30, voilà ce qu'écrit Jean. Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas décrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Donc, l'évangile de Jean a été rédigé, le Saint-Esprit a conduit l'apôtre Jean à écrire ce livre pour nous, pour que nous croyions que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, nous ayons la vie en son nom. En premier lieu, on peut supposer que Jean, en rédigeant ces pages, pense à ceux qui sont encore à l'extérieur du salut, qui ont besoin de se convertir au Seigneur. Mais on peut supposer aussi que Jean pensait aux chrétiens qui étaient déjà à Christ. Et qu'en écrivant, il veut les affermir dans la foi. En fait, on pourrait, sans être infidèle à la traduction, traduire ceci. Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant continuellement, en continuant à croire, vous ayez la vie en son nom. Et béni soit Dieu de ce que l'Écriture nous encourage dans la foi. Elle soutient notre foi. La Bible, la parole de Dieu, agit en nous qui croyons. C'est Paul qui l'écrit, ça. Et béni soit Dieu, c'est vrai, ça. Par l'Esprit, si nous sommes à Christ, la Bible nous soutient. Elle produit quelque chose en nous. Elle soutient la vie de Dieu. Sa parole est vivante et permanente. Chaque jour, c'est pourquoi, bien aimé dans la foi, attachons-nous à l'Écriture. Lisons chaque jour l'Écriture. Méditons-la. Elle rend témoignage au Seigneur Jésus-Christ. Elle produit quelque chose en nous. Lorsque nous faiblissons dans la foi, l'Écriture nous soutient. Lorsque nous déclinons dans la foi, nous avons tous des moments de déclin dans la foi, l'Écriture nous soutient, elle nous reprend. Mais, voyez, elle nous reprend pour nous rendre la vie. C'est l'homme de Dieu qui écrit ce psaume 119, écrira ceci, « Mon âme est attachée à la poussière, rends-moi la vie selon ta parole. » Voyez, l'Écriture nous soutient. Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, c'est ça qu'il faut croire. Notre foi, elle repose sur le Seigneur. Et qu'en croyant, en continuant à croire, vous ayez la vie en son nom. Alors, c'est vrai aussi que Jean écrit parce qu'il y a des fausses doctrines qui déjà ont commencé à circuler. C'est le premier siècle, mais dès le premier siècle, le diable a commencé à faire son œuvre. Et il y a notamment ces fausses doctrines concernant la personne de Jésus. Sa divinité était mise en doute, voilà, elle était remise en cause, notamment par cet homme dont le nom n'est même pas mentionné dans l'Écriture, Sérinthe, et tous ceux qui le suivaient. Et Jean, il n'était pas question de laisser faire ça. En fait, ces fausses doctrines étaient beaucoup plus compliquées que ça. C'est jamais simple, les fausses doctrines. Pourquoi ? Parce que si c'est trop simple, personne ne les reçoit. Mais les fausses doctrines sont toujours complexes, compliquées. On n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Et les fausses doctrines, parfois, se présentent à nous sous un abord séduisant, à force de complexité. Elles peuvent séduire. C'est le missionnaire Bernard Bertholon qui, un jour, avait dit ceci. J'étais jeune dans la foi, ça m'avait marqué. Le frère disait, il n'y a rien qui ressemble plus à la vérité que l'erreur. Rien qui ressemble plus à la vérité que l'erreur. Et ça nous interpelle, parce que nous sommes tous, vous voyez, nous sommes tous en danger. Et qu'est-ce qu'il faut alors ? Mais il faut s'attacher à la parole de Dieu. Voilà, Jean réagit, il n'est pas question de laisser faire, et dans ce livre, il va parler pour révéler Christ et pour contrer les effets de ces fausses doctrines, pour affermir les croyants dans la vérité. Et nous aussi, pour ne pas être emportés, balayés par de faux enseignements, ça ne manque pas, attachons-nous à l'Écriture. Et puis, consolons-nous, prenons courage, parce que Jean, dans sa première épître, nous rappellera aussi, c'est l'accomplissement de ce que le Seigneur va enseigner, qui est rapporté dans cet évangile, que le Seigneur ne nous a pas laissés seuls, il ne nous laisse pas orphelins. Nous avons reçu en lui, par lui, une onction, c'est le Saint-Esprit, une onction qui est véritable et qui n'est pas un mensonge. Elle nous enseigne toutes choses, ce qui ne veut pas dire que nous n'avons pas besoin de l'enseignement dispensé dans les réunions de l'Assemblée, bien au contraire. Mais le Saint-Esprit vient à notre aide, et quand il y a là de faux enseignements, de fausses doctrines, voilà, il y a un voyant rouge qui s'allume dans le cœur du chrétien. Voilà, on discerne de la vérité de l'erreur, non pas parce que nous aurions une intelligence ou un discernement supérieur aux autres, non, nous sommes faits de la même pâte, et nous avons tous besoin de l'aide de Dieu, mais si nous sommes à Christ, bien le Saint-Esprit nous aidera, et nous ne serons pas emportés. Béni soit Dieu pour sa fidélité. Alors voilà ce que Jean, voilà pourquoi Jean écrit ce livre. Voilà pourquoi on voit dans l'évangile de Jean, bien sûr, un certain nombre de grands thèmes qui reviennent régulièrement. Alors la divinité du Seigneur, bien sûr, puisqu'elle était mise en cause. Et c'est pourquoi nous avons lu ce texte. Jean rapporte cette occasion où le Seigneur affirme avant qu'Abraham fût, « Je suis ». On voit ça très souvent dans l'évangile de Jean. Dès le chapitre 1er, au commencement était la parole, c'est le Seigneur, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Au chapitre 5, on voit le Seigneur qui affirme son unité avec le Père. Là aussi, les Juifs comprennent bien ce que ça veut dire. Ils prennent des pierres pour le lapider. Au chapitre 10, on voit une scène analogue, similaire, se reproduire. Et au chapitre 20, c'est Jean qui nous rapporte de quelle manière, alors que le Seigneur apparaît pour la deuxième fois dans la chambre haute, Thomas se jette à ses pieds et l'adore. « Mon Seigneur et mon Dieu ». Et le Seigneur accepte cette adoration. un bref survol de tous les thèmes qui apparaissent dans l'évangile de Jean. L'unité de Jésus-Christ avec le Père, moi et le Père, nous sommes un. Il appelle Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu, écrit l'évangéliste. L'origine céleste de Jésus-Christ, dans le prologue, chapitre 1er, on a tous ces thèmes là qui nous sont déjà donnés. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Au chapitre 3, nous l'entendons, le Seigneur dire à Nicodème, « Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, fils de l'homme qui est dans le ciel. » Chapitre 6, le pain de vie, le Seigneur se révèle comme descendu, comme venu jusqu'à nous. Jean insiste beaucoup sur ces choses, il a raison de le faire. Et puis aussi son humanité, ça faisait partie de ces fausses doctrines, de ces reintes-là. Non, le Seigneur est parfaitement Dieu, il s'est fait homme, sans cesser pour autant d'être Dieu, il n'a pas abandonné sa divinité, mais il a été vraiment homme. Paul écrit, ayant paru comme un vrai homme. Et l'évangile de Jean nous le révèle, ça. Jean l'a connu, il l'a vu de ses yeux, ses mains l'ont touché, et il le décrit. Et on a l'impression qu'il est émerveillé, Jean, nous aussi, on est émerveillé. D'avoir connu le Seigneur par sa grâce. Jean insiste beaucoup sur la division, la séparation qui s'opère entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Dès le premier chapitre, Jean nous montre que la lumière est venue dans le monde et le monde ne l'a pas reçue. Mais à ceux qui l'ont reçue, ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et partout dans l'Évangile, on voit cette séparation qui s'opère. Chapitre 1er, vous avez les premiers disciples, ils croient très vite. Nathanaël, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Au chapitre 2, lorsque le Seigneur manifeste sa gloire, il nous a dit que ses disciples croient en lui. À plusieurs reprises, il nous a dit qu'il croit. On croit, et ensuite notre foi est affermie. Dans sa bonté, le Seigneur permet que tout au long de notre vie chrétienne, par l'Écriture, par les expériences, par la communion de son Fils, et nous recevions de sa part ce qui nous permet de croire et de nous affermir dans la foi. Il y a différentes étapes dans la vie de tout chrétien, dans la foi. Chapitre 3, c'est la foi de Nicodème. Elle va être progressive, elle va se développer. Béni soit Dieu de ce que même une foi qui se heurte à des obstacles, Dieu ne la méprise pas. Et en Jésus-Christ, il permettra qu'elle se développe. Chapitre 4, c'est la foi de la Samaritaine et des Samaritains eux-mêmes. Et dans les chapitres suivants, on voit toujours cette division entre ceux qui croient et les Juifs, souvent, qui ne croient pas. L'ouverture de la porte de la grâce à d'autres hommes, femmes qui n'appartiennent pas à Israël, c'est important pour Jean quand il écrit. Il sait que dans les églises, il y a des Juifs et des païens convertis. Ça provoque parfois des tensions, des heurts. Et il insiste sur le fait que dès le ministère, dès les pas du Seigneur Jésus sur la terre, bien il y avait déjà les signes qui montraient que c'était la volonté de Dieu qui voulait accomplir ces promesses faites par les prophètes de réunir les peuples, toutes les familles de la terre, au peuple d'Israël pour se constituer son Église. Je bâtirai mon Église. Alors, on le voit, chapitre 4, la Samaritaine, chapitre 10, le Seigneur parle d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, celles-ci, il faut que je les ramène, elles entendront ma voix. Il y aura un seul troupeau, un seul berger. Il y a ces Grecs qui, alors que le Seigneur s'apprête à donner sa vie, manifestent leur désir de voir le Seigneur, alors qu'ils se trouvent dans le temple. Finalement, c'est Jean qui nous rapporte cette parole. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. La nécessité de sa mort. Voilà, là aussi c'est important ça. Et Jean nous rapporte toutes ces paroles qui, dès le départ, montrent que c'était le plan de Dieu, le dessein de Dieu, que Jésus meurt pour nos péchés. Il y a ce témoignage rendu dès le départ par Jean-Baptiste. D'ailleurs, c'est frappant de voir que ces paroles, la plupart du temps, n'ont pas été comprises sur le moment. C'est ensuite, alors que le Seigneur a livré sa vie, qu'elles vont s'éclairer. Voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Chapitre 2. Le Seigneur va dire, détruisez ce temple, je le rebâtirai en 3 jours. Là, il parle du temple de son cœur, il parle de sa mort sur la croix. Chapitre 3, le Seigneur parle à Nicodème, il dit, de la même manière que Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Il parle de sa mort ici. Les disciples le comprendront après. Chapitre 6, le pain de vie, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang. Le Seigneur annonce ici, même si ses auditeurs ne le comprennent pas sur le moment, la mort, le sacrifice sanglant qu'il va accomplir pour nous. On peut encore parler du bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Et chapitre 12, le grain de blé qui tombe en terre et qui doit mourir pour porter du fruit. Bon, puis la venue du Saint-Esprit, ça occupe une grande place, ça aussi, dans l'évangile de Jean. Dès les premiers chapitres, il ne faut pas seulement attendre le discours dans la chambre haute. Alors, deux dernières pensées, puis on termine. Alors, pour arriver au « Je suis », ces paroles où le Seigneur révèle ce qu'il est devenu pour nous, à cette reprise, le Seigneur dit « Je suis ». « Je suis le pain de vie, je suis la lumière du monde ». Je suis la porte, je suis le bon berger, je suis la résurrection et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le vrai cep. Alors, cep, il faut être prudent avec les chiffres et les nombres de la Bible. Parfois, certains de ceux qui se concentrent sur ces chiffres et ces nombres donne l'impression, à la manière dont ils en parlent, que la Bible serait un espèce de message ésotérique, intelligible seulement par quelques-uns, un message codé. Non, le Seigneur parle à quiconque veut se donner la peine de l'entendre. La parole de Dieu est pour tous. Bon, cela dit, c'est vrai que les chiffres et les nombres ont une part dans l'Écriture. Bon, rapidement, prenez le nombre 10, les 10 plaies d'Égypte, les 10 commandements. Nombre 40, les 40 années d'errance dans le désert, les 40 jours de la tentation du Seigneur, nombre 12, les 12 tribus d'Israël, les 12 apôtres, et puis le rôle que joue ce nombre dans la nouvelle Jérusalem qui nous est révélée dans le livre de l'Apocalypse, et puis le chiffre 7. Alors on l'associe souvent à la complétude, à la perfection. On l'associe souvent à la divinité, pas toujours dans l'Écriture, pas toujours associé à la divinité. Dans l'Ancien Testament, le Seigneur crée le monde en 7 jours. Il y a 7 fêtes lévitiques, par exemple. Dans le Nouveau Testament, il y a les 7 lettres aux églises d'Asie. Et puis, il y a, par exemple, aussi les 7 paroles prononcées par le Maître sur la croix. Dans l'Évangile de Jean, c'est frappant de voir qu'il y a 7 miracles. Signaler que Jean va nous conserver. Souvenez-vous de ce verset que nous avons lu, Jean chapitre 20, verset 31, verset 30. Jésus a fait en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles, mais ces choses ont été écrites. Jean a choisi, sélectionné certaines. Il y en a 7. L'eau changée en vin, la guérison du fils de l'officier du roi, chapitre 4, chapitre 5, la guérison du paralytique, chapitre 6, la multiplication des pains, chapitre 6, toujours, la marche sur les eaux, chapitre 9, la guérison de cet aveugle de naissance, chapitre 11, la résurrection de Lazare. Et c'est frappant de voir que dans l'évangile de Jean, quand l'évangéliste nous parle de miracle, le mot qui est traduit miracle est le mot qui, partout ailleurs dans l'Écriture, est traduit par signe. Pourquoi c'est important? Parce que un signe, c'est ce qui a une signification. Dans le livre des Actes, il nous a dit que le Seigneur a rendu témoignage à Jésus-Christ par des signes, des prodiges et des miracles. Le miracle, c'est ce qui produit c'est un mot qui exprime la puissance. Le prodige, c'est l'impression qui est produite. Tout le monde en est impressionné, c'est prodigieux. Et le signe, eh bien, c'est parce que ces miracles ont une signification. Et lorsque Dieu œuvre, eh bien, c'est qu'il nous parle de son Fils. Quand Dieu accomplit des actes de puissance, c'est toujours pour glorifier le Seigneur Jésus. Et nous terminons donc ces 7 révélations de Jésus-Christ, je suis. Qu'est-ce que ça a à nous dire? Mais ça nous dit que le Seigneur a été envoyé pour nous. Toutes ces révélations de ce que Jésus est, c'est pour nous. Je suis, Je suis le pain de vie, je suis la lumière du monde. C'est pour nous. Il est important dans notre piété de toujours nous souvenir que l'important est de connaître Dieu pour ce qu'il est. Nous ne sommes pas le centre du salut. C'est Dieu. C'est important. Parce que dans le message de certains mouvements religieux, il peut y avoir parfois cette tentation, et ça se produit, de mettre l'homme au centre. Ça se voit dans la prédication, dans l'enseignement, dans les cantiques, dans l'hymnologie. Il y a même parfois, vous voyez, des cantiques, ça en devient presque sensuel, vous voyez. Et c'est une véritable tentation, ça. Voilà, c'est pas du tout comme ça que fonctionne l'Écriture. Elle nous révèle Dieu et sa sainteté. Amen. Et quand nous avons compris qui est Dieu, béni soit Dieu. En Jésus-Christ, il nous révèle aussi ce que Christ est pour nous. Voilà, pour nous rapprocher de lui, pour nous amener à lui, le Seigneur, la parole a été faite chair. Voilà, on s'arrête là pour cette méditation, cette introduction à l'évangile de Jean, que Dieu bénisse sa parole pour nous encourager. Il y a sans doute bien des difficultés qui nous attendent encore, aux uns et aux autres, sur le chemin. Sa parole sera là pour nous soutenir. Que Dieu nous bénisse.